Leslie John au couloir numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du tas de apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe de Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Du tas de apéro.
Allez, Louis.
Allez, mon petit bonhomme.
Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 73e instant sport. Alors au vu des derniers résultats en Ligue 1 et en Coupe de France, nous n'avons pas pu, faute de chroniqueur, faire l'émission la semaine dernière. Patrick était en dépression, Laurent ne pouvait pas s'asseoir. Mais un petit tour chez la Lanterne Rouge de Ligue 1 et ça va mieux. Salut Patrick.
Salut, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on a meilleure mine aujourd'hui que lundi dernier.
Laurent, tes fesses, ça va mieux? Tu peux t'asseoir? T'as un peu de mal encore.
Nickel, ça, c'est bon, ouais. Je te remercie de prendre soin de moi. Bonjour à tout le monde.
Ouais, ça va?
Oui, bien. Ça va, bien sûr. On a éclaté Lorient, donc tout va bien.
En off, il m'a dit mais ou non, moi ça m'a rien fait.
Mais non, mais je m'y attendais, j'avais misé déjà 2-0 pour PSG. Donc,
Il commence à devenir parisien, hein, Laurent. Fais gaffe. Il mise des 4-1, non? Combien t'as misé contre Barcelone?
4-1.
4-1, c'est ça. Salut Julien, toi ça va? Nice ne flanchit pas, tu intègres l'équipe 1 de l'AFL, tout va bien?
Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, Nice, tant mieux, une bonne victoire à Dijon, c'est jamais facile d'aller gagner là-bas.
Après une grosse victoire contre Montpellier il y a deux semaines,
ouais, avec le revenant Michael Le Bihan.
Ouais,
et puis un petit tour en équipe 1 hier qui fait toujours plaisir, c'est sûr.
Ah voilà, il faut le dire.
Là, Julien, ce week-end, il va à Limonest.
C'est ça.
S'il y a une place dans le bus, j'y vais. Ouais.
Julien qui passe de...
Danasoute, il va y aller Danasoute même.
Qui passe de remplaçant de l'équipe 2 à titulaire en équipe 1. Et ouais, c'est ça.
La magie du sport. C'est peut-être un bon signe pour Laurent, pour le classement peut-être. Rien n'est jamais perdu, Laurent.
Ah non, je le sais. Mais alors, tu parles à quelqu'un de convaincu. Hein,
non, mais comme je lui disais, c'est depuis son passage dans cette émission, c'est l'intervention de Tony Truant.
Ah, ça ouvre les portes.
Voilà, c'est l'intervention de Tony Truant. On a tiré l'œil du coach Fébrière.
Tu vois, parce qu'il ne le connaissait pas, il ne l'avait jamais vu.
Non, mais, on y est un peu quand même pour quelque chose. Tu
c'est
vois,
un tremplin.
De parler de lui, tout ça, de le mettre en avant. Bon, ça joue. Bon, pour toi, Laurent, ça n'a jamais été marché.
Non, moi, c'est
Télémère. Julien est un peu plus jeune, donc c'est normal aussi.
C'est ça. Salut Aurélien, comment ça va?
Bonjour à tous, ça va bien, merci.
Alors, il y a deux semaines, tu es allé chez Tétel, le roi de la moule.
Hein? Non, ce n'est pas moi, tu confonds.
C'était pas toi, non. J'ai vu des
images. Si, j'ai reçu une photo de toi chez Tétel.
Ah, moi aussi. Allez, on va commencer par le rugby qui jouait pas ce week-end, mais qui se déplaçait la semaine dernière chez le leader incontesté Plage d'Orbe. Donc on sait, le RCML à l'extérieur, c'est pas trop ça. En plus, chez le leader, donc défaite 20-3. Une pénalité pour Monde contre 3 essais, une transformation et une pénalité pour Plage d'Orbe. Bon, un score sans surprise, hein, on s'y attendait. Au classement, Aurélien, on en est où?
Donc au classement, donc Plage d'Orbe, toujours leader incontesté avec 65 points. Deuxième, Sijan, 53 points. Troisième, Lunel, 48 points. Quatrième, Bédarieux, 38 points. Cinquième, Prades, Pic-Saint-Loup, 34 points. Sixième, Mende, 26 points, mais avec un match à moins. Et septième, Villeneuve-les-Maguelones, 24 points, avec un match à moins aussi.
Alors, l'info pourrie de Julien.
L'info réchauffée, on va dire.
Non, mais pas d'info réchauffée, déjà. Avant de parler d'info réchauffée, je voulais dire que ce classement est faux.
Ah oui, mais ça, c'est habituel.
Tu m'as devancé parce que c'est ce que j'allais dire.
Les Mende, on peut leur rajouter 10 points, déjà. Ils ont 36 points.
Exactement, donc on est 5e.
Non, parce que forcément les autres sont faux aussi. Enfin, ouais, sinon c'est alors, pas drôle.
Voilà, bon, redonne le classement.
Je tiens à dire que c'est un peu de la faute de Patrick Biancone qui sort son journal le mercredi et que je suis obligé d'aller piocher mes infos dans d'autres journaux qui.
Surtout que c'est le jeudi, mais bon.
Le jeudi.
Donc c'est un jour de plus. Non, mais c'est vrai que. Regardez le classement sur la Lausanne Nouvelle. Là, il est bon.
Bon, alors, il est quoi? C'est quoi?
Non, mais Mende est 7e avec 36 points.
Ah, on a 10 points de plus, mais une place de moins.
Voilà, c'est ça. Ouais. Puisque Villeneuve-les-Maguelones a 38 points et 6e.
Voilà.
Et Villeneuve-les-Maglones qu'on doit affronter encore d'ici la fin de saison, la dernière journée.
Et ce qu'il faut préciser, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul match en retard. C'est celui donc justement de notre équipe mandoise. Et donc ça va avoir lieu ce dimanche au chapitre à 15h. Et on va recevoir Lunel, qui Lunel est troisième au classement. Donc si on gagne, on peut passer devant Villeneuve-les-Maglones.
Avant de les affronter à la dernière journée.
Bon, en fait, pour résumer, ça va être quand même assez compliqué, malgré ces deux matchs à domicile, de finir dans les quatre premiers. Oui, et donc de recevoir, lors de ce fameux match de barrage, donc je te laisse rappeler la règle.
Il y a encore
un espoir, mais ça paraît quand même compliqué de recevoir un barrage à domicile.
Julien,
je peux.
Oui, vas-y.
C'est mon tour.
C'est ton tour.
J'ai beaucoup travaillé sur cette info. Non, mais il y a le premier qui est qualifié directement pour les demi-finales.
Bravo.
Et ouais, après... applaudis super les fous.
Non, mais je me fais plus respecter ça. Et après, du deuxième au septième, c'est barragiste et 2, 3, 4 reçoivent et 5, 6, 7 se déplacent. Donc c'est vrai que Mende, avec les difficultés qu'on leur connaît cette saison à l'extérieur, ça va être difficile d'aller chercher une quatrième place.
Et ils vont peut-être se révéler en play-off.
Voilà, peut-être.
Hein. Bon, il reste deux matchs, donc deux matchs à domicile. Mais c'est vrai qu'a priori, ce barrage sera à l'extérieur.
Chez le second.
Non, si, le second, si tu finis septième, mais on a quand même une chance de finir au moins sixième et pourquoi pas cinquième dans le meilleur des cas. Ah. Donc on peut jouer contre le troisième ou quatrième. Le troisième étant Lunel, qu'on joue dimanche, ça risque d'être une bonne répétition du match. Peut-être l'adversaire potentiel Lunel, mais chez eux.
Aurélien.
Le classement idéal pour Mende serait effectivement d'être sixième avec un déplacement à Lunel. Et ça serait peut-être même encore mieux que de finir cinquième parce qu'après, si on regarde un peu plus loin dans la compétition, il faut savoir que Plage d'Orbe, donc, qui sera qualifié directement et qui est l'épouvantail de cette poule, rencontrera ensuite le vainqueur du cinquième contre le quatrième. Donc c'est vrai que si on pouvait aussi éviter cette phase de cinquième, elle limite sixième pour aller plus loin.
On va passer à la chanson directement.
Mais ton raisonnement est excellent et je confirme que je suis de ton avis.
Laurent demande un temps mort. Allez, on passe. Merci.
La pause fraîcheur on va faire.
Ouais. Allez, on passe au handball. C'était le match à gagner pour le MGC. Ils l'ont fait. Victoire contre l'Oriol, 25-21. Surtout que dans le même temps, Vaux-en-Velin a perdu contre Annecy, Montluçon contre Bourgoin-Jallieu, Saint-Genis-Laval contre Saint-Flour. Finalement, il n'y a que la victoire de Voiron à Fontaine, sinon ce week-end aurait été parfait. Pour le MGC, Aurélien, le classement partant de la fin.
Non, mais je te laisse le dire parce qu'après, chaque fois, ils sont faux. Donc,
C'est vrai, celui-là est bon. Montluçon, dernier, 13 points. Vaux-en-Velin, avant-dernier, 16 points. Mende, 10e, 18 points. Voiron, donc, qui a gagné et qui a 19 points et 9e. Saint-Genis-Laval, 19 points, 8e. Annecy, 7e avec 21 points. Donc, on est à 3 points d'Annecy. Et à 4. À 3 points de Fontaine et à 4 d'Annecy qui est 6e avec 22 points. Superbe opération. Patrick, tu étais au match. Je vais peut-être donner des stats. 14-11 à la mi-temps. Pour Mende, Roche, 13 arrêts, dont 3 sur 5 au pénalty. Boccanegro, 3 sur 5. Cavalier, 2 sur 2. Chanière, 7 sur 13. Coste, 3 sur 4. Fournelle, 4 sur 5. Mizuni, 3 sur 4. Pote, 2 sur 5. Et Room, 1 sur 1. Grosse défense et très peu de gâchis en attaque.
Grosse défense. Pas défense.
Ouais. Non, oui, c'était samedi soir, je revoyais ma soirée.
J'étais au match samedi soir à la Vernède. On a vu un début de match vraiment très crispé de la part des deux équipes, avec quand même de l'échec et du déchet dans les transmissions et de l'échec en attaque. C'est pour ça qu'il y a eu un très petit score dans dans le premier quart d'heure. Il y avait 3-3, 4-3, ce genre de score. Puis petit à petit, Mende est monté en puissance et c'est vrai qu'on a vu une excellente fin de première période de cette équipe du MGC. Et donc 3 buts d'avance à la pause, c'était à mon avis largement mérité. Par contre, on a eu un début de deuxième mi-temps qui a fait craindre le pire à toutes les tribunes, puisque là aussi, un réveil de l'Oriol, je pense qu'ils se sont fait bouger par l'entraîneur dans les vestiaires à la mi-temps. Et puis un peu là aussi de déchets, un peu de fébrilité du côté de l'équipe mandoise. Et donc il y a eu un rapproché de cette équipe dromoise. Et donc on est revenu quasiment à égalité. Et même il y a eu presque après un but d'écart ou deux buts d'écart au cœur de cette deuxième mi-temps. Et il a fallu. Bon, je reste concentré. Il y a eu un petit accident. Il a fallu une reprise en main et un temps mort salvateur du coach Daudet. Et donc on est revenu à de meilleures intentions. Il y a eu une fin de match en boulet de canon de cette équipe du MJC. Et c'est vrai que la fin de match, on n'a plus eu aucune crainte et on savait dans les 5 dernières minutes, même un peu avant, que le match était acquis. Et donc voilà, moi je veux surtout souligner le duo de défense dans l'axe du terrain avec un Olivier Cavalier qui a fait un match de titan. Il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps il jouait gardien de but, et donc là il s'est reconverti en pivot et en chef de défense avec notre ami Maxime Joubert, et donc tous les deux ils ont fait un match vraiment énorme en défense, et je tiens à souligner la performance de ces deux garçons.
C'est sûr que de toute façon j'en avais parlé il y a 15 jours qu'il fallait se remobiliser, je sentais un petit peu de laxisme dans l'équipe. J'ai croisé un joueur avant le match là samedi qui me dit qu'il y a eu deux très bonnes semaines de préparation pour ce match, du physique. Bon, il m'a dit entre guillemets peut-être un peu trop, bref, il en faut. Mais vraiment tout le monde était concerné, et puis ça s'y est reconnu pendant le match. Donc c'est sûr que quand on prend que 21 buts, c'est plus facile de gagner un match que quand on en prend beaucoup plus comme les autres fois. Donc bravo à toute l'équipe qui a su se remobiliser. À quelque chose près, le MJC pouvait repasser à la 9e place. Donc bon, cette victoire de Voiron là, nous permet pas de gagner cette 9e place qui sera très importante à acquérir avant la fin de la saison. Voilà, bravo à tout le monde. Bon, ce week-end, il y a un match très très compliqué qui s'annonce puisqu'il y a un déplacement chez le leader à Saint-Flour. Mais après, pourquoi pas créer exploit, les faire douter l'équipe Cantalou. Voilà, c'est possible. Tout est possible dans le sport. On en a parlé avec Julien avant l'antenne.
Voilà, et L'Oriol qui était cinquième quand même au classement, c'est pas non plus.
Et sans trahir de secret, j'étais en train de récupérer les noms des joueurs des deux équipes avec les numéros au niveau de la table de marque à quelques minutes avant le début du match. Et donc il y avait une dirigeante de ce club de L'Oriol qui très gentiment m'a fait passer la composition de son équipe. Et donc à ce moment-là arrive Philippe Rodier, le président du MJC, qui vient la saluer. Et donc s'engage comme entre tous les dirigeants une conversation assez amicale. Et donc la dirigeante a dit textuellement à Philippe Rodier qu'ils n'étaient pas venus faire de tourisme et qu'ils jouaient la montée. Ni plus ni moins, ils jouaient la montée. Donc on voit toute l'ambition de cette équipe de L'Oriol. Avant le début du match, ça augmente encore plus la performance de l'équipe du MJC.
Voilà, raison d'y croire. Hein. On est dixième, on commence à se rapprocher.
Oui, alors là, au niveau des points, je pense que là aussi, le classement est faux.
J'ai le vrai, c'est pas une info réchauffée, si vous voulez. Ouais,
voilà. Le vrai. Ah bon, voilà, bon, tu me rassures, donc vas-y, je te laisse
vas-y,
faire.
Je vais arrêter avec les classements.
Non, mais Mande, le MJC est 10e, certes, mais avec 20 points, voilà, et pas 18. Et donc il y a 12e, Vaux-en-Velin avec 18 points, 11e, Montluçon, 19 points, 10e, le MJC, 20 points, 9e, Voiron, 21, 8e, Saint-Génis-Laval, 21 aussi, et 7e, Fontaine, 23 points, qui a fait la... une bonne opération en s'imposant, voilà, ce week-end.
Après, ça revient à ce que j'ai dit. On est à 3 points du.
Oui, mais non, mais non, c'est moins que ça. Du parce sixième. Que, en fait, on est à un point d'être sauvé. Parce que la 8e place, tu es sauvé, puisque le 9e fait un barrage et les 3 derniers descendent. Donc, il faut bien voir ça. C'est l'info importante. On est à un seul point du maintien total à une 3, sans passer par le barrage.
Et donc, bon, comme l'a dit Laurent, ce week-end, il y a un match important. Certes, peut-être compliqué à Saint-Flour, mais qu'on va peut-être qualifier de match bonus, ou s'il y a match nul ou victoire, bien évidemment qu'on prendra. Mais Patrick l'avait dit dans une précédente émission où il s'était donné un petit peu rendez-vous avec le président du MJC. Les 4 prochaines journées, ce sont 4 adversaires qui se trouvent entre la 7e et la 12e place. Donc c'est vraiment ce championnat là du bas qui... Ouais,
c'est là où ça va se jouer, tu as raison de le répéter.
Et puis on voit maintenant que l'équipe du MJC est au complet, enfin, parce que ça n'avait pas souvent été le cas depuis le début de la saison. C'est vrai que du coup, ça crée vraiment une autre dynamique, notamment en défense, on le voit. Hein. Au début de la saison, on critiquait un petit peu cette défense qui prenait beaucoup de buts. On disait qu'on ne pouvait pas gagner des matchs en prenant une trentaine de buts. Et là, on voit que la tendance commence à s'inverser, donc... Donc il y a de l'espoir pour la suite et pour ces matchs couperés dont tu parles.
Et puis surtout Gaëtan Roche qui a été exceptionnel en deuxième mi-temps, où il a sorti arrêt sur arrêt. Je pense qu'il y a eu une bonne période où il n'a pas pris de but. Et finir à 13 arrêts quand on n'en concède que 21 et sortir 3 jets de 7 mètres. On avait lu un petit peu des déclarations du coach qui demandait à ses gardiens de se mettre au niveau. Je pense que là, Gaëtan a parfaitement répondu à ces attentes-là. Et c'est sur cette lancée qu'il faudra continuer pour aller chercher ce maintien qui, sur ce qu'on a vu ce samedi à la Vernède, place tout à fait le MGC au niveau de cette N3 avec cette combativité, cette envie qui leur manquait un petit peu sur la première partie de saison.
J'ai une petite question pour vous là, Patrick et Julien, enfin pas toi Laurent parce que tu sauras pas répondre.
Dis-moi.
Les matchs couperés dont tu parles contre ces équipes qui sont un petit peu en deuxième partie de classement, ils se font à domicile, à l'extérieur.
Il y en a deux à domicile, deux à l'extérieur.
Ouais, d'accord.
Donc le 18 mars à domicile contre Fontaine, une semaine après à Saint-Genis-Laval. Le 1er avril à Voiron et le 8 contre Vaux-en-Velin qui est pour l'instant est dernier du classement.
Ah, okay. C'est bien ça. On y verra beaucoup plus clair après
non
ça.
Mais c'est vrai qu'on parlait des gardiens de but. Alors moi j'aime bien faire les stats. Je le fais aussi quand je vais voir le volet au niveau des points marqués. Donc là je me suis amusé à comptabiliser les buts marqués, les tirs, les arrêts. Bon, j'en ai un peu moins moi pour Gaëtan Roche parce que... J'applique un peu la règle, alors je ne sais pas si c'est celle-là, mais je me souviens quand j'ai regardé donc l'équipe de France là récemment, où il y avait le championnat du monde, une fois j'ai entendu un spécialiste dire que un gardien, l'arrêt n'est pas comptabilisé si le ballon va en touche, c'est-à-dire si le ballon ou si le ballon est récupéré par un adversaire. Parce que, a priori, pour les statisticiens, c'est la même action. Donc j'ai appliqué cette règle, c'est pour ça que j'en ai un peu moins. Moi pour moi, il a fait 10 arrêts.
Elle est nulle, cette règle.
10 arrêts samedi. Comme tu dis, par contre, après une première mi-temps où c'est vrai, je l'ai trouvé un peu en dedans, on parle bien sûr de Gaëtan Roche, il y a eu ce rapproché de Loriol en début de deuxième mi-temps. Et c'est à ce moment-là, c'est vrai, où il a sorti une série impressionnante de 4-5 arrêts. Et donc, ça a permis au MGC de refaire cet écart qui a été décisif et définitif et qui a permis de vivre une fin de match tranquille. Voilà un peu comment j'analyserai le match de notre gardien qui a joué les 60 minutes, au contraire de Loriol, où là il y a eu une répartition plus équitable entre les deux gardiens de cette équipe drômoise.
Allez, ok, une question piège maintenant. En pré-nationale féminine, Aurélien, les féminines ont perdu, elles jouaient contre qui ?
Contre le MUC, non ?
Bien, elle jouait contre le MUC. Le MUC 1, vu qu'il n'y a qu'une équipe, défaite 26 à 17. Au classement, les filles sont 4e avec 11 points. Les garçons, j'avais pas le résultat. Je sais qu'ils avaient gagné la semaine dernière et donc il me semble qu'ils sont second du classement. Mais bon, les classements, je vais arrêter d'en parler.
Il y avait les 18 aussi que Laurent.
Moi je suis allé voir les moins 18 filles.
Allez, on y va, on en parle.
Qui jouaient contre Montpellier, elle aussi. Ah. Et qui était première, Montpellier, les moins 18, nos moins 18 étaient secondes. Donc là, c'était open bar en défense, puisqu'il y a eu 76 buts dans le match, 39 à 37, pour nos mandoises. Donc elles sont revenues de loin, puisqu'à un moment, elles perdaient moins 6 ou moins 7, je ne sais plus. C'était un petit peu mal engagé. Puis petit à petit, elles ont grappillé, puis elles ont gagné juste à la fin. Et c'était chouette, c'était beau de voir ces gamines qui se donnent...
39-37, au spectacle. Hein.
Oui, bon, il faut quand même rajouter que la gardienne mandoise s'est pris un carton rouge à la 20e minute.
Ah.
Donc c'est une joueuse de champ qui n'est pas habituée, bien sûr, à passer un
goal.
Elle
n'a pas de remplaçante goal.
Non, qui n'a pas les mêmes automatismes, qui a fait ce qu'elle a pu d'ailleurs. Elle a bien géré, mais bon...
Il paraît que Laurent est descendu avec une perruque, j'ai vu ça.
Non, pas tout à fait, elle s'est bien débrouillée. Elles se sont bien débrouillées, bravo à cette jeune équipe bien sympathique.
Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le match...
Qui prennent la première place.
Le match des garçons a commencé en retard, parce que justement, le match de l'œil de rideau a duré, a duré un certain temps, et donc il a fallu retarder le coup d'envoi du match des seniors, de 10 minutes, un quart d'heure.
Voilà, et elles ont vu Patrick arriver, elles ont dit « Oh, il y a Patrick de l'Instant Sport, il faut qu'on le gagne ». Voilà, et comme ça, on peut en parler.
Et non, parce qu'il est arrivé après coup, Patrick.
Ah ouais, tu étais encore plus en retard, toi.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y avait
aussi, quand même, je vous le dis parce que je viens de recevoir un texto de notre ami Philippe Rodier, donc je le lis parce que ça me fait plaisir. Analyse juste et pertinente, donc voilà.
De qui, de Laurent ?
Non, analyse au pluriel, donc je pense c'est de tout le monde, de toute notre émission. Donc merci à toi Philippe de nous écouter et merci pour ton message qui nous fait plaisir.
Et allez le MGC. Allez, on passe au volet avec les playoffs qui ont commencé pour le MVL, qui ont gagné leur premier match non sans mal la semaine dernière contre les jeunes 3-7 à 0, mais assez difficile, et qui a perdu ce week-end contre Saint-Jean-d'Illiac au tie-break 3-7 à 2. Alors des playoffs quand même qui sont complètement fous lors de la première journée. Épinal, qui était à égalité de points en tête avec les Mandois, a chuté 3-2 face à Luin. À Luin, qu'on connaît.
Oui.
Avignon, troisième au classement, s'est quant à lui incliné 3-1 face à Saint-Jean-d'Illiac. Ce week-end, le Dauphin de Mende Épinal a de nouveau chuté, cette fois-ci contre Fréjus. Mende qui reste donc en tête. Tu me diras si je me trompe, Patrick. Premier avec 18 points.
C'est ça.
Suivi d'Épinal, 16 points.
Oui.
Avignon, 16.
C'est ça.
Saint-Jean-d'Illiac, 15.
Oui.
Alès 12, Aluin 9, Fréjus 7, et le CNVB 3 points pour terminer. Dommage hein, cette défaite, les Mandois qui menaient 2-7 à 1 et qui perdent au tie-break finalement, Patrick.
C'est ça, le regret, il est là. Quand tu mets 2-7 à 1 au volet et qu'au final tu perds 3-2, ça laisse toujours un regret parce que bon, il te reste plus que 7, bien évidemment, à inscrire. Et donc tu perds les deux suivants. Une petite contre-performance, on va le dire comme ça. Après, je pense qu'il y a cette finale samedi prochain dans ce grand palais des sports de Clermont-Ferrand. On le répète, 5000 places assises. Finale de la Coupe de France contre Conflans. Match à 13h, puisqu'il y a 4 finales ce jour-là. Et nous, on attaque le bal. Donc, on peut après me raconter ce qu'on veut. On peut se dire toute la semaine, prenons match après match. Il faut penser à Bordeaux. Mais on a été joueurs, pas à ce niveau-là, mais on a tous été joueurs et on joue toujours. Et donc, tu peux pas ne pas, dans un coin de ta tête, savoir que tu as cette finale. Tu as peur de la blessure, forcément.
Mais au-delà de ça, est-ce que Saint-Jean-d'Illac, ça serait pas peut-être cette équipe surprise? Ils ont tapé Avignon.
Franchement, je crois pas, parce que.
Ils battent Avignon et manquent de coup sur coup.
Tu parles de ce match d'Avignon, et j'y étais, puisque ce week-end-là, j'étais dans le sud, donc j'ai vu le match dans la salle d'Avignon, et franchement, j'ai vu une équipe d'Avignon traumatisée par cette élimination à Mende et par la défaite en championnat. 15 jours avant, et j'ai vu une équipe d'Illac qui a des joueurs mais pas du niveau, franchement pas du niveau de Mende. Je le dis comme je le pense. Après, il devait y avoir ce jour-là un 5e set. Il y a eu des décisions arbitrales franchement hallucinantes contre Avignon qui ont donné le set à Bordeaux. Il aurait dû y avoir un 5e set, donc Illac aurait pu marquer que 2 points, voire même qu'un point lors de ce match-là. D'ailleurs, il a failli avoir une émeute dans le gymnase. Bon, ça a été. Puis à la fin du match, à la buvette, il y a eu. C'était complètement fou. J'ai vu l'entraîneur d'Avignon dans un état où je l'avais jamais vu. Alors que dire du président? Donc c'est pour ça que Illac est une bonne équipe, pas de problème. Mais voilà, à mon avis, ça reste quand même niveau inférieur à Mende et à Avignon. Épinal, on les connaît pas puisqu'on les a pas rencontrés. Donc je ne les connais pas. 2 points d'avance, bon. Il faut continuer. C'est sûr que pour moi, il y a 4 équipes maintenant, les 4 premiers, et donc il n'y en aura que 2 qui accéderont à la Ligue B l'année prochaine.
Ouais, ça va être dur, mais c'est un peu,
oui,
c'est un peu étonnant.
Tout est possible.
En tout cas, cette équipe Saint-Jean-d'Illac qui n'est pas extraordinaire, comme tu le dis, 2 matchs, 2 victoires, ça grappille, ça remonte.
Après, c'est vrai que par rapport au week-end où ils étaient venus en Coupe de France, il leur manquait un central. Qui est vraiment, bon, je l'ai vu à Avignon, vraiment un très bon joueur, et donc qui jouait pas ce match de Coupe de France, donc ça aussi, un joueur de plus qu'on n'avait pas vu du côté d'Illac, ça leur amène vraiment un plus, mais franchement, à domicile, je vois. Bon, après, voilà, bon, je vais m'arrêter là, mais.
Non, vas-y.
Je ne pense pas qu'Illac soit supérieur à Mende dans ce championnat, franchement.
Julien.
Et puis c'est quand même bon, même si c'est vrai, il menait 2-7-1, mais. Dans son malheur, quand même, le MVL ramène quand même un point.
Oui,
c'est vrai.
Donc, et puis Illac marque que 2 points.
Illac marque 2 points. Et puisque aujourd'hui, j'ai senti qu'on m'a confié les classements et calendriers, la semaine prochaine, le MVL joue à l'Est, tandis qu'Avignon et Épinal s'affrontent. Et ils sont deuxième et troisième, égalité avec 16 points. Donc si le MVL qu'on connaît, redoutable à domicile, aurait la bonne idée de prendre 3 points pour passer à 21 points et profiter de l'affrontement direct entre Avignon et Épinal, ça pourrait ressembler quand même à une bonne opération.
Ouais. Alors, surtout précision, tu fais bien un
belle précision.
Sur Alès, il suffit d'aller sur Internet, en particulier sur l'excellent site du club de volley d'Avignon, où il y a un résumé de chaque match. Donc là, il y avait Alès-Avignon. Et donc, on peut lire que deux joueurs d'Alès, dès l'échauffement, ont dit qu'ils étaient blessés. Alors, ce n'est pas marqué dans l'article, mais on le comprend fortement. Ils ont certainement fait exprès de dire qu'ils étaient blessés pour ne pas jouer ce match. Et il y a eu, après le premier point, donc le premier point c'était un service d'Alès, tous les joueurs ont quitté le terrain pour protester contre les conditions qu'ils vivent actuellement, c'est-à-dire des retards de salaire nombreux et répétés. Et donc, ils ont protesté. Et donc, ce qui explique aussi la démotivation totale des deux premiers sets où ils ont marqué 14 et 15 points. Alors, après, ils se sont mis dans le match. Donc, on risque. Il y a un club d'Alès qui est complètement démotivé. Bon, on le sait qu'il y a des ennuis financiers énormes dans ce club de volley d'Alès. Et donc voilà quelle est la situation de ce club qui va peut-être disparaître en fin de saison.
Alors Laurent, quand Alès va venir jouer, il faut que tu ailles au gymnase et que tu leur dises, écoutez, si vous perdez les gars, je vous offre une crêpe. Comme ça, peut-être que
ça, je sais pas si ça va fera quelque leur chose. Faire plaisir.
Oui, parce qu'on parlait d'handball, toi t'es allé à Montluçon ce week-end, hein?
Oui.
On peut en dire un mot, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé.
Pour dire que j'ai accompagné les moins de 15 filles de la sélection, je ne sais pas comment on appelle ça, de la Lozère, voilà, qui affrontaient l'Allier et la Corrèze. Et donc, elles ont fini premier du tournoi, se qualifient pour le tour suivant, le troisième tour.
Voilà.
Bien.
Et contre la Corrèze, il a dit aux filles, si vous perdez, je vous offre une crêpe à chacune d'entre vous. Et il s'est barré comme un rat vite dès que ça s'est. Mais c'est bien. Ouais. Tous les moyens sont bons. Alors, les prénationales féminines perdent à domicile face à Béziers Marosson 3-7-0.
On pourrait parler de la finale de l'adversaire.
On va en parler.
D'accord, ouais. Okay.
3-7-0 et se retrouve 9e avec 14 points. Les prénationales garçons chutent à domicile contre Montpellier Avuc 3-7-0 et sont derniers avec 12 points. Et donc cette équipe du monde volley Lozère qui, bien sûr, on l'a dit depuis plusieurs semaines, va jouer cette finale de Coupe de France fédérale à Clermont ce samedi. Et il y a eu un changement, Patrick, dans les horaires. On devait jouer en seconde, donc vers les 16h30.
On devait jouer à 15h30. 15h30 ouais. On devait jouer.
Et il y a un changement.
Oui, parce que la finale donc de cette Coupe de France fédérale féminine, Chamaillère est en finale chez les filles. Donc, comme tout le monde sait, Chamaillère, c'est la banlieue de Clermont. Pour le public, le club a demandé à la fédération d'inverser la rencontre. La fédération a accepté, sans demander l'avis des dirigeants mandois, par correction, au moins. Un petit coup de fil en disant, voilà, vous comprenez, Chamaillère, c'est juste à côté. Bon, pour leur public, ils ont demandé à 15h30, qu'est-ce que vous en pensez? Il aurait pu y avoir une discussion. Il n'y en a pas eu. Et donc, on va ouvrir le bal. Et dès 13h, coup d'envoi
à 13h. Sachant que Chamaillère a acheté la moitié des places du gymnase.
Aussi. Oui, c'est vrai qu'en plus...
il reste très peu de places pour les autres
C'est vrai que Chamaillère a un public énorme en championnat. C'est
plus de 2000 places achetées par le club.
Exactement. Et un championnat, ça arrive souvent plus de 1000
personnes. Ah, c'est dommage.
De personnes, donc il y a eu vraiment une grosse ambiance chez les filles de Chamaillère.
Ils vont arriver après le match de Mende, du coup.
Oui, ils vont arriver courant à la fin. Voilà.
Ouais. Ouais. Ok. Les bus, il reste de la place là, dans les bus mis en place par le MVL?
Alors samedi, il restait 30 places. Donc je ne sais pas depuis samedi où est-ce qu'on en est.
Non, mais vous pouvez vous renseigner. Il faut appeler les dirigeants ou directement le club. J'ai pas le numéro en tête, mais allez-y. Franchement, on va passer un super moment. C'est une finale. Ça arrive pas toutes les années. C'est la première fois. Donc c'est vraiment un événement pour le sport lozérien. Donc si vous êtes libre samedi, n'hésitez pas. En plus, on a la chance de jouer à Clermont. C'est pas loin, donc allez-y, il n'y a pas de problème.
Alors attention, il faut faire attention dans cette émission à ce qu'on fait,
moi,
Julien.
J'y serai.
J'ai des yeux partout, je vois ce que tu fais. Alors,
non, mais
tes textos avec tes petits cœurs, hein, tu attends la fin de l'émission, s'il te plaît.
Moi j'y serai, mais par contre, Julien est à Limonest, donc il ne pourra pas.
On va lancer un appel à Johan Fébrère. Ne sélectionne pas Julien samedi. Donc il est bien à Carmont.
Je suis pris samedi de toute façon.
Ouais, oui, c'est
j'ai match. J'ai match avec mes petits U13. D'ailleurs, si vous savez pas quoi faire samedi et que vous voulez pas aller à Clermont, je joue un match de Coupe de France contre Alès.
Ah, mais voilà.
Avec mes U13.
Où ça, à quel stade?
À Badarou à 13h.
Ok, super.
Bon, en tout cas, avec Laurent.
Les joueurs d'Alès qui d'ailleurs vont peut-être faire la grève avant le match.
Si leur col. En tout cas, avec Laurent, on y saura. Nous, on y saura. Donc, il n'y a pas de problème.
Est-ce que, Patrick, tu as des infos sur l'adversaire?
Oui, alors.
Ton match de ce week-end, etc.
Ce week-end, ils ont fait exactement comme le MVL. Ils ont perdu, mais encore plus nettement, puisque 3-1, donc ils marquent 0 points. Alors, ils sont qualifiés pour eux aussi pour les playoffs en N2. Mais quand tu consultes le classement, ils sont 5e sur 8, avec un écart. Avec un écart, puisque là, il y a seulement le premier qui monte en N2, avec un écart déjà énorme. Il y a plus de 10 points avec le premier. Donc, ils n'ont plus aucun espoir d'accéder à l'élite.
Ils misent tout sur cette coupe.
Voilà, exactement. Alors après...
oui, ils ont dû faire tourner ce week-end.
Voilà, Conflans, c'est un club qui jouait en élite il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est un club qui a connu le niveau supérieur et qui est composé de plusieurs joueurs qui ont connu le niveau pro, c'est-à-dire première et deuxième division, et donc là, qui sont en fin de carrière et qui sont en N2. Donc, comme tu l'as dit, Aurélien, ils se sont fixés l'objectif de gagner cette coupe et de l'inscrire au palmarès. Donc, il faudra bien évidemment être vigilant, même si tout le monde, bien sûr, dit que le MVL est favori, puisque quand tu es premier des playoffs en élite, tu n'apprécies pas. Il y a un écart par rapport à une N2 qui certes est en play-off, mais en milieu de tableau. Donc, sur le papier, on est largement favori, mais c'est vrai que ça ressemble au match piège et il faudra être très sérieux.
Voilà. Exactement, Patrick.
Je pense que en coupe, il faut faire très attention.
Oui, tu regardes ça.
Monaco reçoit Marseille. Monaco est favori et il en met une tolle.
Quand il y a des niveaux différents, il y a déjà une motivation différente, évidemment. Et puis, je pense qu'on va bientôt en reparler au niveau du football. Il y a quelquefois des matchs un peu plus compliqués qu'on l'attend.
En tout cas, si Mende devait perdre ce que je ne souhaite pas, ce serait quand même un véritable exploit de la part de l'autre équipe. Puis je crois qu'il n'y a aucune équipe de N2 qui a gagné la Coupe de France amateur. Donc, ça serait vraiment une première dans l'histoire de la Coupe de France.
Ouais. Mais vous pression bossez super... le week-end, les gars. Bravo.
J'ai vu ça.
C'est bien ça.
Et je crois que j'ai vu, petit aparté encore.
Vas-y.
Donc, les finales professionnelles sont retransmises à la télé. Mmh. Et je crois que les deux finales amateurs sont retransmises sur le site de la Fédé de volley. Donc, il me semblait. Donc, il faudra regarder.
Parfait,
si vous ne pouvez pas faire le déplacement, il faudra aller sur le site de la Fédé. Je crois qu'ils seront retransmis.
Je mettrai un streaming à Badarou.
Voilà.
Non, mais c'est vrai que Laurent, tu le disais, ça aurait mérité quand même que l'Instant Sport soit. Enfin, pas l'Instant Sport. 48 FM soit quand même en direct pour faire vivre à nos auditeurs. Bon, voilà. Mais tu ne peux pas tout faire tout seul non plus. Donc,
je ne peux pas commenter du volet. Je ne peux pas. C'est impossible de commenter du volet, Laurent.
Mais
toi tu parles de Miss France, tu parles de tout. Donc oui, toi tu peux, mais moi impossible, trop dur. Tu pourrais commenter toi,
Patrick? Oui, on peut commenter.
Patrick, on le fait tous les deux.
On peut commenter.
Ouais, mais oui.
Ouais. Mais écoutez, vous y allez, donc parfait. Je vous dirai comment faire.
Ouais.
Allez, en football, la semaine dernière, en championnat, l'AFL a continué sur sa très bonne lancée en obtenant un match nul en Corse à Lille Rousse, 0 partout. Je crois que tu as un bon classement, Julien.
Ouais.
Je te laisse la donner.
C'est encore à moi. Ok. Et bien alors, premier, Saint-Priest, 33 points. Deuxième, Louhans-Cuiseau, 31. Troisième, Bourgoin, 31 aussi. Bastia, 4e et égalité avec Saint-Etienne, 28. Limonest et l'AFL, 27. Aurillac, 26. Et Clermont, un peu plus décroché derrière, 21 points.
Heureusement que ce n'est pas Aurélien, parce qu'il n'a pas du tout les mêmes chiffres. Hein, mais ton classement est excellent, Julien. Je te le confirme.
Redis-moi, combien de points le premier?
33 pour Saint-Priest et nous, l'AFL, 27.
Ah, on a 6 points.
N'oublie pas que le meilleur second.
Il y a 4 points du meilleur deuxième.
Voilà.
Les meilleurs seconds.
Oui, les 4 meilleurs seconds des 8 poules accèdent au CFA.
Il faut mettre les choses au clair.
Ah, ça y est.
Non, mais tu les trouves où tes résultats?
Ah non, mais je croyais qu'il avait parlé de la deuxième place.
Ah, c'est une catastrophe.
Tu les as trouvés où là, sur du foot?
Sur la redoute. C'est pour ça.
Écoute,
mais c'est bien alors ça, si le meilleur second. Par contre, je suis un peu Paulon
Pézenas. Les 4 meilleurs secondes de tous les points.
Et Paulon a du mal, hein.
Oui, mais ça, on s'en fout, ça.
Mais ouais, ça n'a rien à voir.
Mais c'est une équipe qui est montée.
Oui, non, mais voilà, tu peux. La solidarité régionale, mais c'est pas pour
Montpellier
ça.
Montpellier aussi.
Bon. Oui.
Mais ça n'aura aucune question.
Surtout, dans les précédentes émissions, on disait que le classement, on avait du mal à lire ce classement parce que pas mal d'équipes avaient des matchs en retard.
Maintenant, on peut.
Et maintenant, on peut. Oui. Tout le monde est à 17 journées, voilà. Sauf Div Kabour et mais Borgo bon. Qui sont qu'à 16, mais qui sont derrière.
Mais qui s'affronteront jamais.
Combien de matchs
ils s'affronteront le 1er avril
à peu près.
Il reste,
ça fait 17 journées pour tout le monde.
Donc ça fait
14, il reste 9 matchs.
9 matchs.
Ah, c'est jouable.
Il reste 9 journées.
Excellent ça.
Donc dommage d'avoir pas marqué ce petit but, ce transversal, voilà. Non
c'est quoi une transversal à Euro. Mais on s'est eu un poteau. Ouais.
Voilà, un poteau, un but refusé aussi.
Voilà, un but refusé. Donc
0-0, mais à mon avis,
2 points de plus. On reprend le classement avec 2 points de plus.
Ouais, alors, ça ferait 29.
Ouais. Ça ferait 29. Ça
on est à 2 points de la deuxième place.
Mais Lille Rousse, qui en avait pris avant de recevoir la FL 10 à Aurillac, à mon avis, je ne sais pas comment ils avaient abordé le match, mais je pense qu'ils n'avaient pas envie de prendre beaucoup de buts. Donc ils avaient dû fermer les vannes.
Non, mais c'est vrai que là maintenant on va avoir une série de matchs contre les équipes du haut de tableau en commençant par Limonest, qui a exactement le même nombre de points
que nous. Qui a perdu hier 3-2 contre la réserve de Saint-Etienne.
Exactement, donc qui s'était imposé au chapitre.
Oui, 3-2.
Donc il y a une belle revanche à prendre. Et donc si on a la chance de gagner à Limonest, là je pense qu'on a une fin de saison éblouissante qui se profile, avec en particulier la réception de Louan Cuiseau, de Saint-Priest. Donc un chapitre en folie, mais il faut gagner Limonest.
Dire qu'en début de saison, quand j'annonçais la montée de la FL, on se foutait de moi.
Eh oui.
Mais je ressortirai les bandes peut-être bientôt. Ce week-end, Coupe Garlozère, quart de finale, la FL est allée s'imposer contre Caissargues, 3-2, Almeyras s'est doublé de Diallo. Alors pour ce quart de finale de la Coupe Garlozère à Caissargues, Johan Febrer avait décidé de se passer de Rebolosso, Camara et Fedel qui jouaient en réserve, mais aussi de Gourma qui était handicapé par une élongation. Donc ça m'inquiète un peu parce que les élongations c'est quelques semaines quand même normalement.
Ouais, une petite.
Une petite.
Par précaution,
oui,
quoi.
Oui, oui. Quand on change. Ça devrait pas être trop grave.
Alors que finalement c'était pour ajouter dans cette équipe l'atout numéro 1 de l'équipe 2, c'est-à-dire Julien Gall qui va pouvoir nous parler de ce match. Défense classique devant Giraud, gardien pour cette compétition. Juste avant de parler de ce match, on connaît les autres demi-finalistes ou pas,
oui,
Patrick?
Il y a la réserve de Nîmes Olympique, donc qui joue aussi en CFA 2, qui s'est qualifié. Et donc il y a Rousson qui joue en DHR dans le même pool que Marojol.
Oui.
Et puis le quatrième match, c'est pas joué, puisque c'était Vauvert, donc comme Vauvert jouait...
C'est ça, contre Chusclin. Vauvert Chusclin, c'est le dernier quart de finale qui devra se jouer.
Donc on connaît trois participants.
Ce sera une PH, là, quoi qu'il en soit.
Qui est l'entraîneur de la réserve de Nîmes Olympique? Non, c'est pas... C'est pas notre ami de la FL qui est parti, non? Centre de formation, il fait pas la réserve non plus.
Il avait 17 nationaux.
D'accord, ok.
Non, il a pas la réserve.
Alors ce match, parle-nous de ce match, toi qui étais au cœur du...
Au cœur des débats, ouais. Mais comme l'a dit Aurélien tout à l'heure pour le volet, en coupe, on est capable de se sublimer. Hier, Caissargues nous en a fait la meilleure expérience, puisque ils ont fait un début de match assez solide, où après 3-4 minutes, ils touchent déjà le poteau sur leur première occasion. Et au lieu de nous mettre en garde, Caissargues a continué à appuyer. Ils ouvrent le score sur un coup franc direct par le numéro 11, Junior Diabaté, qui est le frère de Zié Diabaté, qui joue au Nîmes Olympique. Petite info sympa.
Petite anecdote.
Petite anecdote.
Laurent en a une sympa aussi à nous dire tout à l'heure.
Donc 1-0, et on égalise sur un coup franc de Nabil. Benjamin Almeyras coupe la trajectoire devant le gardien. Et au lieu de nous réveiller, de se dire que on a pris un but, qu'on était averti, qu'on savait à quoi s'attendre, et on est un peu retombé dans nos travers, on a été fébrile. Et devant, ce numéro 11 là, il a encore tiré un coup franc direct en pleine lucarne. Vers la demi-heure de jeu, donc on était mené 2-1. Et Caissargues, donc, qui évolue en PHB. Donc hier, il y avait quand même 4 niveaux d'écart entre les deux équipes. Donc 2-1, ils se sont dit qu'en menant 2-1 contre une CFA2, peut-être qu'il fallait un petit peu nous laisser le ballon et procéder par contre. Ce qu'ils ont pas trop mal fait sur le dernier quart d'heure. Mais heureusement, sur un centre de Zibra Mboup, Abdou Diallo a parfaitement coupé la trajectoire. Et le fait de rentrer au vestiaire à 2-2, ça nous a fait du bien, je pense, parce que... Si on avait dû courir toute une mi-temps derrière le score, je pense que la partie aurait été tout autre. Et puis sur la deuxième mi-temps, petit à petit, je pense que physiquement, on a commencé à prendre le dessus. On a vraiment posé le pied sur le ballon. On a fait courir un petit peu plus cette équipe de Caissargues en étirant vachement leur bloc, en passant à droite, à gauche, en insistant pas mal par des centres. Et puis, à 20 minutes de la fin, sur un long ballon, le défenseur se trouve un peu de Caissargues et Abdou est là pour propulser le ballon au fond des filets, 3-2. Et en fin de match, ils ont un petit peu poussé, mais Jürgen, dans les cages, n'a pas eu forcément d'arrêt à faire. Mais cette équipe de Caissargues est leader en PHB et je pense qu'elle ne vole, vole pas cette place puisque hier ils ont montré pas mal de qualité, poussé un petit peu par les gens autour du grillage pour mettre un petit peu d'ambiance. C'était un vrai match de Coupe Carlos Herr, on savait à quoi s'attendre et comme on dit en Coupe, le plus important c'est la qualif et donc on retiendra ça maintenant, c'est la demi-finale.
Objectif remporté, réussi, l'objectif, cette qualification.
C'est d'avoir cette finale entre les deux clubs de CFA2. Après, il y a le tirage au sort, on verra. Mais c'est vrai qu'il y avait une finale à la réserve de Nîmes contre l'AFL. Les deux clubs de CFA2, ça serait vraiment une superbe.
Qui se jouerait évidemment à Nîmes.
Une super... Non.
Alès.
Non, pas Alès, mais encore plus près.
À Marguerite, quoi.
Ouais, voilà. Mais bon, c'est vrai que Caissargues est premier de PHB dans la poule du Buisson. Ouais. Donc, il y a 4 divisions d'écart. C'est vrai que. Bon, après, il y avait une équipe remaniée aussi pour permettre à l'AFL de voir ce match en retard contre Vauvert. Et d'ailleurs, il y a eu la victoire 1-0. Donc, bon week-end pour l'AFL. Avec,
il s'arrête où ce Diallo là?
De belles victoires. Hein, voilà, alors, Diallo, je crois que c'est 4 matchs de Coupe Carlos Herr et 4 fois un doublé.
Je crois qu'il a mis doublé à chaque fois.
Un doublé à chaque fois, donc ça fait 8 buts en 4 matchs en Coupe Carlos Herr. Je crois qu'il est à 12 en championnat, donc ça fait déjà 20, sans compter la Coupe de France. Bon, il est sur ses bases habituelles.
Avec une division supérieure à exactement. Ce qu'il était d'habitude. Laurent. Non,
Patrick disait que ça
même
serait
deux,
chouette.
Même deux, puisqu'il était quand même
DHR. Ah oui, même deux.
Patrick disait que ça serait chouette une finale contre Nîmes Olympique. Moi, je ne le vois pas comme ça, en fait. Je verrais plutôt une demi-finale contre Nîmes Olympique à Mende. Et après, une finale contre n'importe qui sur terrain neutre, bien sûr. Et là, ça serait beaucoup mieux.
Ouais, c'est vrai.
Ça serait bien mieux.
Allez, l'équipe 2, après sa défaite la semaine dernière contre Générac, 3-0, Johan Febrer avait décidé de renforcer l'équipe en faisant monter Julien Gall en équipe 1. Et du coup, ça a marché, car la FL2, qui s'est imposée contre Vauvert, 0-0, but de Barbu, Mende seul en tête avec 54 points devant Chusclan, qui a perdu à domicile face au 3e Saint-Privat. Les classements, je ne les dirai plus. Julien, j'ai abandonné.
Vous avez combien de points d'avance?
Nous, on a 54 points et Saint-Privat a 47. Mais je pense que c'est un 47 provisoire parce que mercredi dernier, ils ont affronté Saint-Christol-les-Alès en match en retard. Et à la 80e minute, le stade de Saint-Privat a subi une panne de courant. Ah. Mais donc il y avait 3-0 pour Saint-Privat. Alors je ne sais pas comment les instances vont gérer ça. S'ils vont
le stade de Saint-Christol?
De Saint-Privat.
C'était à
Saint-Privat des Vieux. Donc je ne sais pas comment les instances vont gérer ça. Est-ce qu'ils vont refaire jouer 10 minutes? Est-ce qu'ils vont tout refaire? Mais en tout cas, Saint-Privat avait gagné 3-0. Mais en tout cas, pour l'instant, ça nous fait 7 points d'avance sur Saint-Privat. Et 9 sur Chusclan, qui a toujours un match en moins. Mais c'est vrai que Saint-Privat, qui allait gagner à Chusclan, nous, ça nous arrange au plus haut point.
Et oui. Alors, du côté de Marvejol Sport, la semaine dernière, une victoire contre la réserve d'Agde de 3-1, but de Pape Fall et doublé de Bobo Diallo. Je crois qu'ils n'ont pas joué ce week-end.
Pas de match.
Non, pas de match. L'ENL, par contre, a joué ce week-end, a perdu contre Volvic à domicile 1-0 et à avant-dernier du classement, il me semble, avec 21 points, c'est dans ces eaux-là. Badarou a du mal en ce moment, l'équipe n'a pas joué ce week-end, mais par contre a perdu la semaine dernière contre Saint-Bozély, 4-0. Attention, Badarou qui dégringole au classement, Julien.
J'ai une info, non, vas-y. Juste pour revenir sur le Nîmes Olympique, l'entraîneur de la réserve c'est Yannick Dumas. Voilà.
C'est bien
juste
ça.
Juste pour donner l'info. Je n'envoie pas que des textos avec des cœurs.
D'accord, c'est bien.
Badarou n'a pas joué ce week-end parce que le terrain de la Biogue était impraticable.
Oui, évidemment. Qu'est-ce qu'on a encore comme match? Le Buisson a gagné la semaine dernière à Bagnols-sur-Cèze, 3-1. Rémi Pascal, Guillaume Delcros et Florian Ostallier. Le Buisson qui est installé au milieu du classement. Et ce week-end, Langogne a gagné contre Massiac. 1-0. Allez, on a bien fait le tour. 1h12, on va parler football et Ligue des Champions, bien évidemment, dans cette seconde partie d'émission, après cette pause musicale. Allez, on est reparti avec Kevin Mayer, tout d'abord, le pensionnaire du Krebs Montpellier qui a décroché l'or et le record de l'heptathlon au championnat d'Europe en salle à, à Belgrade. Bravo. Je ne sais pas si vous avez suivi cette info. Pas Belgrade. Belgrade.
Belgrade, oui. Ouais. Il a battu le record d'Europe. Et donc, il n'y a que l'Américain qui vient de prendre sa retraite, champion olympique.
Eaton.
Ashton
voilà,
Eaton.
Qui a fait mieux que lui.
Victorinho.
Par le passé. Donc, c'est vrai qu'une pépite de l'athlétisme français. Et donc, il est promis à un excellent avenir.
Oui, parce qu'il est jeune encore. Hein.
Voilà. Et après, on sait que cette discipline, heptathlon, décathlon, c'est hyper traumatisant, il y a beaucoup de blessures. Mais s'il arrive à prendre soin de son corps...
Puisqu'il est au Crêpes de Montpellier, aïe aïe aïe.
Il a un avenir brillant.
Ça va finir comme Aurélien, ça.
Ouais. Chez Tétel.
Chez Aurélien.
Chez Tétel.
Il est peut-être chez Tétel en ce moment à nous écouter, Kevin. Fourcade a gagné sa 6e Coupe du Monde. Il égale ainsi le record de la légende norvégienne. Comment elle s'appelle déjà, Aurélien?
Bjørndalen.
Ole Einar Bjørndalen.
Voilà, c'est bien. Bon, mais rien à dire, hein, on en parle assez souvent de Fourcade. Voilà, il gagne tout le temps. Collé, donc, voilà. La Ligue 1 attend beaucoup à dire. On va d'abord parler à la Ligue des Champions et s'il nous reste du temps, on reviendra avec la Ligue 1. Parce que... Si, la Ligue 1 Nice, ouais, on va parler de Nice. Parce que c'est le résultat le plus probant. Marseille qui gagne chez Lanterne Rouge, bon, là, on ne va pas dire grand-chose. Bordeaux-Lyon, ils se neutralisent, on ne va pas dire grand-chose. Dijon 0, Nice 1.
Il y avait d'ailleurs un pénalty pour Dijon. Flagrant qui n'a pas été sifflé. Je le dis d'entrée.
Non, c'est pareil.
Pareil
c'est
pour Bordeaux d'ailleurs.
C'est Arnaud Souquet, oui. Ancien Dijonais, qui a fait la faute, donc ça compte pas.
Ça compte pas. Alors, est-ce que Nice peut être le Montpellier Euro d'il y a quelques années et être champion de France avec ses victoires 1-0, 2-1 à l'arraché? Patrick, tu dis non de la tête?
Non,
Aurélien,
Je dis non. Je dis non parce que s'il n'y avait qu'une seule équipe, d'accord, mais là, il y a deux équipes vraiment qui marchent hyper fort. Et puis on voit que quand même Nice, maintenant, depuis.
Ouais, mais ils n'ont que 10 matchs, Nice.
Gagne à l'arraché.
Ils n'ont pas de Coupe de France, ils n'ont pas de Coupe de la Ligue, ils n'ont pas de Ligue des Champions.
À mon avis, ça ne peut pas passer.
Laurent.
Moi, je dis oui. Parce qu'ils ont un calendrier.
Il retourne sa veste encore.
Parce qu'ils ont un calendrier hyper favorable.
Pardon ?
Je ne suis pas sûr.
Pardon ?
Monaco, 65 points. Paris, 62.
Paris, je ne suis pas sûr pour le calendrier.
Nice Détroit, c'est l'équipe qui a le calendrier le moins favorable, puisque dans les 4 dernières journées, ils reçoivent Paris.
Tu les reçois à domicile, c'est quand même favorable.
Si tu reçois, c'est forcément à domicile.
La dernière journée, ils se déplacent à Lyon. Ça risque de ne pas être un match facile aussi.
Et il y a Marseille.
Lyon voudront niquer le PSG et Monaco, donc ils laisseront gagner. Marseille, pareil, Solidarité du Sud. Je vous dis que c'est favorable.
On jouera à la 5e place, donc on veut faire un gros pari prochain.
On s'arrangera d'ici là, on trouvera un compromis.
Non, moi je pense qu'ils peuvent être champions aussi.
Ouais,
non,
mais, aussi oui, c'est sûr, mais parce que depuis un moment on dit est-ce que Nice va tenir, Mais en tout cas, 10 journées de la fin, Nice est toujours là, c'est sûr. Ils font une saison extraordinaire. La dernière fois j'ai vu une stat où à partir du moment où à ce stade du championnat, une équipe avait plus de 59 points, elle était championne de France.
Sauf que là il y en a 3 qui sont dans ce cas-là.
C'est pour dire quand même la saison extraordinaire de Nice. Mais après, quelque part, la malchance qu'ils ont, je me fais pas respecter. La malchance qu'ils ont, c'est qu'ils tombent aussi sur une saison extraordinaire de Monaco et de Paris.
Oui,
donc forcément, ça aide pas.
Ce que tu peux dire, c'est qu'ils sont premiers du championnat normal.
Oui.
Parce que tu as le Paris Saint-Germain.
Et largement devant, hein, 4e Lyon, 48 points.
Il y a deux choses.
Et Marseille, on les voit même.
Il y a deux choses qu'on dit pas souvent. C'est que tu as le Paris Saint-Germain avec derrière un actionnaire comme le Qatar, où les fonds sont inépuisables. C'est-à-dire, s'il faut mettre 50 millions, on met 50 millions, s'il faut mettre 60, on en met 60, et etc., etc., etc. Donc, il y a une concurrence qui est totalement faussée, puisque là, c'est open, c'est pas open bar, c'est open budget, donc premièrement. Et puis après, tu as Monaco qui est quand même hyper favorisé au point de vue fiscal, puisque tous les joueurs étrangers de Monaco ne payent pas d'impôts. C'est-à-dire que mec comme Falcao,
comme disait Jotassen,
0 euro, Moutinho 0 euro, Bernardo Silva 0 euro, Subasic, Glick, Jemerson, etc., etc., etc. Tous ces mecs-là, ils payent 0. Donc moi, j'aimerais bien qu'à Marseille, on puisse bénéficier de ça. Que les étrangers, c'est-à-dire que ceux qui payent les impôts, c'est qui? C'est Bernard Mendy, c'est Sidibé, c'est deux ou trois joueurs, les joueurs français. Sinon, après le reste, ils payent net. tout.
Rassure-moi, Rolando, il paye pas d'impôts.
Et si,
avec les prestations
et si,
qu'il fait.
Et si,
non,
et
non,
et
c'est
si,
pas possible.
Et si, et si, et
en tout cas, Nice a 20 points d'avance sur Marseille quand même. 20 points.
Et en plus
donc
de
nice,
ça,
Nice est champion du championnat normal.
Ouais. Et en plus de ça, Nice joue à 10 parce qu'ils ont un fantôme qui s'appelle Balotelli dans l'équipe.
Arrête.
Non, non, mais c'est vrai.
Non, mais,
dire,
mais
ça, ça va changer parce qu'avec ce stade qui est tout le temps plein de Nice, il y a des rentrées d'argent, ils vont pouvoir acheter des bons joueurs.
Tellement petit, il peut être que plein.
Ouais. Non, non, mais c'est bien, continuer à changer.
Non, mais moi, j'y crois. C'est vrai qu'il y a quelques semaines de ça, j'y croyais pas. Mais là, ils ont l'air de tenir bon. Et pourquoi pas, parce que les deux autres équipes jouent la Ligue des, oui, voilà, des Champions, ouais. Ils peuvent y laisser des plumes, même s'il y a quand même des effectifs conséquents. On ne sait jamais.
Mais ils peuvent. Monaco a bien fait un partout à Bastia il y a deux journées de ça.
Ouais.
C'est pas parce que c'est Monaco et Paris qu'ils n'ont pas le droit d'y laisser des plumes. Paris a fait 0-0 contre Toulouse. Paris a eu beaucoup de mal contre Lille à domicile. Paris a beaucoup de mal contre Nancy à domicile.
Le problème, c'est qu'ils font des matchs nuls et ils perdent pas, quoi.
Oui, mais Nice ne perd pas non plus, quoi. Il faut pas oublier quand même que Nice, c'est deux défaites cette saison. Une fois à Caen, où bon, ben voilà, un accident est arrivé. Et une fois contre Monaco, où Monaco est OK sur un nuage. Mais Nice fait une saison fantastique.
Ah
Nice,
ouais.
Nice est à 3 points du leader. Bon, après, certes, je suis peut-être pas tout à fait objectif parce que je suis supporter niçois, mais je vois pas pourquoi, à 10 journées de la fin, à 3 points du leader, Nice ne pourrait pas être champion, quoi.
C'est exactement ce que
je dis. Il y a un match que tu oublies, il aurait dû avoir une troisième défaite, c'est contre Marseille. Mais heureusement pour vous, Johan Pelé, jouait à ce jour-là maillot niçois. Ouais. Donc c'est vrai que ça vous a
aidé. Et il avait un maillot l'orienté ce week-end.
Voilà, ça vous a permis, voilà, ça vous a permis de gagner 3-2.
Oh, d'ailleurs, lui, c'est vraiment une catastrophe, lui.
Non, non, il est à son niveau, c'est tout. C'est tout.
Rudy Garcia, qui quand même protège ses joueurs depuis le début, où il a pris l'équipe en main, a quand même avoué en conférence de presse que c'était un but gag. Donc c'est vrai qu'on a vu un but gag. On se demande encore pourquoi il est venu.
Lequel tu parles, le but gag?
Non, mais alors il y en a eu que.
Ah, tu parles du but gag. Voilà. Parce que donc, mercredi, en Coupe d'Europe, c'était pas si génial non plus.
Coupe de France.
En Coupe de France.
Coupe d'Europe.
Je suis enflammé. Là.
Coupe d'Europe, c'était il y a 10 ans.
Je suis revu il y a 20 ans même.
Il y a 20 ans. Je vais vous donner une info que personne n'a. Ah, paraît-il que l'OM est sur jour de Rennes.
Ouais. Oui, non, ça, c'est la personne là.
Il cherche un bon goal, bien posé.
Trop nul.
Joue à Marseille, trop nul, il aurait dit. Ligue des Champions, cette semaine, le PSG se déplace à Barcelone, donc mardi ou mercredi ?
Mercredi,
ben, le soir de la rediffusion de cette émission, donc on n'aura pas encore faux lorsque les gens vont nous réécouter mercredi soir sur les pronostics de ce match. Avant de parler des pronostics, de les donner, une question toute simple, Barcelone peut-il remonter le PSG ? Alors comme Laurent va dire oui, je pose la question pour commencer à Patrick.
C'est possible, mais ils ne le feront pas.
Ah ouais. Alors ça, c'est nul comme réponse. Hein.
Parce que je pense que Paris, quand même, a les moyens
de résister,
normal, voire même de marquer un but. Mais c'est vrai que dans l'absolu, alors que n'importe quelle équipe à 4-0, tu te croirais qualifié. Mais là, je mets quand même un petit pourcentage, alors
10 ou 15%,
sur le fait que c'est possible.
Voyons. Aurélien, c'est possible ?
Non, c'est pas possible.
Non, c'est pas possible, on est d'accord. Julien,
non, c'est pas possible. S'il y a une équipe qui peut le faire, c'est eux, parce que devant, ils ont 3 extraterrestres et ils en ont encore mis 5 ce week-end au Celta Vigo. Mais si tu gagnes 4-0 au Parc et que tu vas te faire éliminer au Camp Nou, c'est bon.
Et ils n'ont pas Evra et Rolando, Paris. Hein. On marque pas 5 buts comme ça facilement.
Ouais, et puis c'est pas du niveau de Celta Vigo, quoi, aussi. Donc,
Non, mais je compare, parce que Celta Vigo en Espagne ne fait pas une saison moche, quoi. Ils ont éliminé notamment
juste,
le Real
juste,
en Coupe et
juste
tout.
Juste un scénario. Suarez, dans la surface, il se fait faucher par le gardien. L'arbitre siffle penalty. Carton rouge au gardien. On joue par exemple la 13e, 14e minute. 1-0 pour Barcelone. Et il te reste 1h15 à 10 contre 11.
Avec Thiago Silva qui fait caca dans sa culotte.
Je peux te dire que les supporters parisiens, ils vont serrer les fesses.
Ils commencent à me faire peur. Là.
C'est des touches, des couches taille 5 qu'ils vont mettre là ce week-end. Hein.
Mais non, n'importe quoi. Laurent, ils peuvent remonter ?
T'as pas bien sûr qu'ils peuvent remonter le Barça.
Alors, est-ce qu'ils vont remonter ?
Les records sont faits pour être battus, puisque ça ne s'est jamais produit. Ils peuvent le faire, mais comme j'avais dit il y a quelques semaines, moi, je pense que ça va être très compliqué pour le PSG. J'avais misé un 3-0 pour le Barcelone, donc une qualification du PSG. Mais voilà, compliqué, très compliqué.
Oui, justement, c'est l'heure des pronostics. Donc, Laurent, tu dis combien ?
3-0 ? 3-0 pour Barcelone.
D'accord, Barcelone éliminé. Et Paris qui marque pas ?
Ben non, Paris qui marque pas.
Okay.
Paris n'aura pas beaucoup le ballon à ce match. Et ben donc voilà, ils peuvent marquer sur des coups de pied arrêtés, peut-être sur des contres, mais non, j'y crois pas. Non, non.
Ok. Ben moi, je vais dire 3-1 pour Barcelone. parce qu'il va y avoir 3-0 et qu'ils vont se découvrir pour en marquer encore et qu'ils vont se prendre un but de, d'un défenseur. Ouais, je vois bien le Belge, là, Meunier. Patrick.
Alors, Meunier, il ne dépassera pas le centre sur ce match, je te le dis.
Oui, mais si, à la fin de match, il va monter et bim. C'est ça. Patrick.
Ça veut dire qu'à 3-0, il va monter, le mec.
Mais oui, c'est un fou, c'est Meunier, tu ne le connais pas.
Je vais dire 2-0 pour Barça.
Paris ne marque pas non plus.
Non.
Non, mais arrêtez, les gars.
Moi, je vais te suivre, Ludo, je vais dire 3-1 aussi pour Barcelone.
Toi, tu l'as belle.
Ouais. Moi, je pense que la prochaine fois, je commence mes pronostics en premier parce que j'ai toujours le même que les autres et je voulais dire 3-1 pour Barcelone. Je vois quand même.
Tu peux. Ouais, ouais. Aussi, je voulais dire ça, nous.
Ouais, c'est vrai que les deux, ils sont pas derniers. 3-1 pour Barcelone.
Ok, au moins, ça sera simple.
Vous savez que Di Maria va certainement ne pas jouer ce match. Est-ce que vous. J'ai attendu que vous disiez vos pronostics.
C'est pas grave.
Non.
Di Maria,
si t'as pas Di Maria, tu peux mettre Lucas et Draxler. Il y a rien de choquant pour aller au Camp Nou avec Lucas et Draxler.
Ouais. Ou Pastore. Hein. Pastore, il fait une très belle rentrée. Hein. Lui, il joue pas pendant un an, il revient. Et contre Marseille, il a été énorme aussi.
Non, mais on écoute quand même quelqu'un qui a Zambo en guissa au milieu de terrain. C'est
et Payet qui a 20 kilos de trop. Bon, Payet, il faut qu'il fasse un régime.
Il met des jolis buts,
d'ailleurs.
Il met des jolis buts. Mais bon. Ok, les autres matchs. Dortmund qui avait perdu à l'aller 1-0 contre Benfica va se qualifier, on est d'accord?
Oui.
Ils en ont mis encore 6 ce week-end, ou je sais pas combien.
Ça devrait passer. 6-2 contre les Arsenal.
Le Bayern Munich va Arsenal après avoir gagné 5-1, on est d'accord, c'est fini.
Oui.
Et le Real Madrid qui va à Naples après avoir gagné 3-1. Alors là, je sens bien une petite surprise. Je sens bien un petit 2-0 du côté de nos amis napolitains. Patrick, non? Tu sens pas ça?
Si.
Ouais. Ah, si.
Non, si, je le sens, mais bon, mais c'est possible. Je suis d'accord avec toi.
Donc, si on suit votre raisonnement, le Real Madrid, avec les meilleurs attaquants du monde, ne marquera pas un but.
Non, mais t'es à Naples. Naples, tu marques, peut-être tu rentres pas chez toi, hein, tu sais.
Ah oui.
Ah, c'est pas. Ils jouent pas à Riron, quoi. Tu vois. Aurélien, non, je sais pas, il veut parler de Gobert, Aurélien.
Je pense que...
Aurélien, il veut parler de Rudy Gobert.
Je pense que le Real Madrid va passer quand même.
Ouais. Julien aussi.
Oui, je sais, un petit match nul.
Je pense que le Real va passer. Ouais. Mais par contre, là où c'est exceptionnel, c'est que. On dit le Bayern a gagné 5-1 contre Arsenal, ouais, c'est bon pour le Bayern. Alors que pour Paris-Barça, on se pose la question, alors qu'il y a aussi 4 buts d'écart. Quoi.
Non, je vous pose la question, moi je me la pose pas. Mais...
Non, il y en a plusieurs qui se la posent. Et les journaux en Espagne qui commencent à chambrer, à dire que le Barça va gagner 5-0. Mais...
Pup, pirouette, non, cacahuète.
Tu vois l'état d'Arsenal.
C'est surtout pour souligner ça, quoi. Le Barça-Arsenal, voilà, c'est pas pareil. Quoi.
C'est pas pareil. Allez, dernière info NBA. Alors, une petite anecdote assez drôle de la part de Golden State qui a essayé d'engager Calderon, donc le meneur espagnol qu'on connaît bien, qui a 35 ou 37 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, Aurélien?
Bien, il faut savoir qu'en NBA, c'était une période de transfert là, ces dernières semaines, donc qui s'est finie ce week-end. Et donc, Golden State voulait recruter le meneur espagnol José Calderón, qui était laissé libre par son club des Lakers. Et donc, il lui avait fait une promesse verbale en lui disant qu'il le recruterait.
Parce que Kevin Durant s'est blessé.
Manque de peau, Kevin Durant, entre-temps, s'est blessé. Et donc, la priorité de Golden State n'était plus de recruter un meneur, mais un ailier pour remplacer Kevin Durant, qui va être absent pendant plusieurs mois. Et donc, ils ont recruté un ailier en la personne de Matt Barnes. Et donc, ils ne pouvaient plus recruter le meneur Calderón. Mais comme il avait fait une promesse...
Parce que t'as droit qu'à une recrue, c'est ça?
Non. Tu peux en prendre autant que tu veux.
Mais pourquoi ils ne pouvaient pas le recruter?
Mais par rapport au salary cap...
C'était une histoire de budget, etc. Et donc, mais comme il lui avait fait une promesse verbale, ils lui ont quand même fait signer son contrat pour le virer 2 heures après.
Et 400 000 dollars.
C'est-à-dire que Calderón aura passé 2 heures à Golden State, il n'aura pas enfilé un maillot, il n'aura pas joué une minute, et il aura touché 415 000 dollars de prime parce que le contrat a été cassé par le club. Donc voilà, c'est pas mal comme
ils se sont entendus, comme ça s'est fait quand même à l'amiable.
Oui.
Je m'y attendais pas.
Comme argent de poche, c'est pas mal.
C'est pas mal comme argent de poche.
400 000, c'est fait à l'amiable. Ouais.
400 000 dollars pour 2 heures.
Du coup,
il a plus de club. Du coup, il a été recruté quand même par Atlanta, il me semble.
C'est quand même fou. C'est quand même fou, hein, ces transferts. On va parler transfert alors vite fait avant de parler de Gobert. Avec ce grand DeMarcus Cousins qui est parti à la Nouvelle-Orléans pour faire une raquette de fou avec Anthony Davis, qui était échangé contre trois joueurs plus deux tours de draft sur plusieurs années.
Ouais, sur la saison prochaine et plusieurs années, effectivement. Mmh. Surtout qu'il ne s'atteignait pas du tout, le pauvre DeMarcus Cousins. Puisque quelques jours avant, le All-Star Game encore, ses dirigeants lui demandaient des avis sur les joueurs à recruter, puisque c'était quand même le joueur phare de l'équipe. Donc ses dirigeants lui demandaient son avis sur les prochains joueurs à recruter, qu'est-ce qu'il pensait des joueurs à recruter, etc. Et il s'est retrouvé le bec dans l'eau, il est revenu dans son club, on lui a dit bah, tu peux repartir, tu as été transféré, il n'était pas du tout au courant, et donc il a dû faire ses valises comme ça, fissa pour partir au Pelicans.
Ils sont jamais au courant.
C'est un journaliste qui lui a appris d'ailleurs.
Ouais. Ouais, exactement.
Et d'ailleurs ce week-end j'ai vu Nouvelle-Orléans contre San Antonio Spurs en prolongation, les Spurs ont gagné, c'était énorme. C'était énorme, c'était tendu jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils se disent tiens on va faire des fautes sur les deux dernières minutes sur Pau Gasol, donc l'erreur, hein, lancé franc, et voilà. Et ils sont arrivés jusqu'en prolongation, ils ont gagné. Allez, vite fait, on n'a plus le temps. Rudy Gobert, match énorme encore cette nuit, Aurélien.
Encore, on pourrait en parler tous les lundis, c'est Julien, je crois, qui...
C'est comme Fourcade.
C'est ça, exactement. Chaque Rudy Gobert qui fait une saison assez impressionnante, il marque encore le panier de la gagne en prolongation cette nuit. Donc vraiment, de bon augure pour l'équipe de France, ça fait plaisir.
Il y a des compètes bientôt en équipe de France ou pas?
Pas cette année.
Bon allez, Laurent, un mot sur Portland et on arrête l'émission.
C'est un dinde aussi, résultat un dinde aussi, voilà, on va dire.
Ouais.
Ça va être dur pour la qualif.
Ouais, oui, très compliqué.
Pour Portland, puisqu'il faut être dans les 8 premiers, là ils sont un petit peu lâchés.
Un peu moins bien, là, ouais.
Allez, c'est fini, merci les gars, on se retrouve lundi prochain, même heure, même fréquence pour un nouvel Instant Sport. Ciao.
Bye-bye. Au revoir.
Ciao.
Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, je t'ai remarqué. Je ne dis rien.
C'est le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du tas de apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors, je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.